qu'on va pouvoir passer aux questions, sachant qu'il nous reste à peine 20 minutes. Quelqu'un avait levé le doigt.
Bertrand.
Une question à la fois politique et scientifique. Peut-être politique, il faut la comprendre comme ça pour qu'à la fois vous puissiez réagir chacun et aussi la salle. C'est une question très simple. Par rapport à la résistance ou à la non-résistance ou à ce qui s'est passé récemment dans l'actualité sociale, est-ce que vos analyses vous donnent des éléments pour comprendre la défaite sur la Poste, par exemple ? Ou bien ce qui se passe au niveau de France Télécom, on a des cas très différents, on a une médiatisation de ce qui s'est passé à France Télécom qui était quand même énorme, mais en même temps c'est autour de la souffrance, donc est-ce que ça peut déboucher au-delà de la réorganisation des relations de travail sur quelque chose qui soit plus d'ordre collectif ? Et à la Poste, est-ce que l'évolution déjà très engagée des relations professionnelles à l'intérieur de la Poste permet de comprendre que les résistances à la privatisation étaient finalement un échec, puisque c'est un échec.
C'est pour qui la question ?
Vous répondez tout de suite.
Bah vas-y, commence. Ouais.
Alors, dans le résultat, c'est un échec, mais il ne faut pas oublier que La Poste et France Télécom sont intimement liés, c'était les PTT. Et logiquement, on aurait pu imaginer que ça suive de près France Télécom. Or, pour l'instant, il y a toujours eu des résistances, ce qui a fait, certes, là, ça y est, la société anonyme est passée, mais tout ce qui a fait que ça a tenu jusque-là, c'est aussi grâce à ces résistances qui sont en œuvre et qui sont pas, qu'il ne faut pas éluder et les prendre juste comme une défaite, je pense. C'est très important. Il y a des choses inédites qui ont eu lieu sur la Poste. La mobilisation des associations des maires de France, des communes rurales, tout ce qui a été cette initiative de votation citoyenne qui, je trouve, en termes de sociologie, est très intéressante à analyser. Certes, le résultat, la fin est une défaite, mais les moyens entrepris pour l'éviter sont, je trouve, très, très intéressants à creuser. Et ça montre quand même un attachement particulier très fort à la Poste, plus justement qu'à France Télécom ou à tout autre service public. Pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs éléments, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a quand même eu... Donc certes, c'est un échec, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a quand même eu cet attachement, cette votation citoyenne, c'est en septembre, ces manifestations ? Eh bien, c'est le fait aussi que la Poste est dans la vie de tout le monde. Vous avez tous dans votre bureau de poste, vous identifiez bien votre facteur, alors que la personne qui vient réparer vos lignes de téléphone, eh bien, vous ne la voyez pas. Et donc, cette personnification de la Poste à travers les postiers qu'on croise tous les jours, tous, donne quand même des éléments intéressants. Et d'ailleurs, ça a permis quand même de faire une marche arrière au gouvernement. Il ne faut pas oublier qu'il était question à un moment... là, c'est une société anonyme à capitaux 100% publics. À un moment, il était question même d'ouvrir le capital... Donc, il y a quand même encore de la résistance et ça résiste encore. Voilà ce que je peux en dire. C'est difficile de faire l'histoire en cours, d'autant que c'est vraiment en cours. Au mois d'avril, la Poste obtient le crédit à la consommation, que ça va encore provoquer plein de... En partenariat avec la Société Générale, ça arrive. Donc, il y a plein de changements qui sont en cours. C'est très délicat d'avoir de la distance et un regard suffisamment acéré pour en donner des conclusions générales.
Sur les résistances, j'évoquerai pas France Télécom ou La Poste, j'évoquerai donc le cas de Siris et autres donc, que j'ai pu étudier. Pour dire plusieurs choses, la réponse elle peut être de plusieurs ordres, c'est-à-dire qui résiste. Il y a eu d'abord des résistances, on peut le dire, syndicales, et syndicales très fortes à la mise en place de ce dispositif, avec des contestations fortes et le rappel de l'importance du collectif, de ce refus d'une individualisation des politiques de gestion de ressources humaines. Donc il y a eu d'abord une contestation forte qui a été qui venait aussi de la part d'un certain nombre de salariés non syndiqués aussi et dont j'ai pu recueillir les propos. Il y a un autre type de résistance, c'est aussi celui des participants eux-mêmes au dispositif. parce que voilà, ils peuvent se révolter aussi contre cette responsabilisation que l'on fait porter sur eux. Dans des moments, par exemple, où, alors je dis, dans des moments où, dans un séminaire, par exemple, la responsabilité de l'entreprise et de la gestion des ressources humaines de l'entreprise est contestée, et où finalement le dispositif offre aussi un espace de construction ou d'un retournement du stigmate en quelque sorte, où ce ne sont plus les salariés qui seraient responsables, mais l'entreprise qui est responsable, et donc ça laisse la place à ça, sachant que très vite c'est repris par l'animateur qui va, justement ce que j'évoquais rapidement, va expliquer que bon, les choses se résolvent à l'échelle individuelle de manière interpersonnelle. Et donc bon, ça peut reproduire aussi encore de la responsabilisation. Et puis, bon, il y a des formes de résistance après le séminaire aussi. Et je voudrais parler d'une autre forme de résistance de la part finalement d'acteurs un peu inattendus. C'est-à-dire qu'à la suite de ce travail, j'ai aussi travaillé sur les coachs. Hein, c'était un espèce de déroulement de suite un peu évidente, parce qu'au moment où j'étudiais ça, c'était aussi la pleine explosion des coachs en entreprise. Et donc j'ai un peu étudié, ou pas mal étudié, ce champ en construction. Avec la découverte, alors voilà, le coach du cadre, souvent du cadre à potentiel, qui donc va se faire coacher pour souvent des histoires d'incompatibilité d'humeur ou de difficulté à réaliser pleinement son potentiel, enfin si on reprend un petit peu des termes. Et au sein de ce champ en constitution du coaching, il y a des luttes entre bon, alors les coachs vraiment issus de la psychologie comportementale et justement des coachs plutôt issus d'interventions psychosociologiques qui voient là sans doute une manière de réaffirmer leur position dans un champ qu'ils avaient dominé pendant un moment, qui est le champ de l'intervention de la formation en entreprise. Donc ils étaient, les psychosociologues étaient, donc suite au plan Marshall, très dominants dans ce champ de l'intervention et de la formation en entreprise. Ils se sont fait petit à petit grignoter leur marché. Et aujourd'hui, finalement, ils proposent une forme de coaching qui, justement, par refus de la responsabilisation individuelle, rappelle la responsabilité de l'entreprise, l'importance de travailler sur les conditions de travail, l'importance des risques psychosociaux, etc. etc. Et donc, il y a en quelque sorte des résistances au sein même des acteurs professionnels qui interviennent dans l'entreprise. Voilà, donc, juste pour donner quelques pistes de résistances qui viennent finalement d'un peu partout, même si... elle n'empêche pas quand même cette espèce de... Alors, Étienne doit te parler tout à l'heure de voilà, socialisation collective, il me semble bien, effectivement, ça n'empêche pas quand même qu'il y a toute une socialisation, une intériorisation de messages et de discours et, par des pratiques qui restent assez, assez forts.
Alors, moi, j'ai une remarque que je vous soumets à tous les trois, parce qu'en vous écoutant par homologie ou analogie, je ne sais pas comment on peut dire, il y a plein de, enfin, toute une série de dimensions que vous décrivez dans le champ du travail ou de l'entreprise qui font écho non seulement à ce qui se joue dans l'institution scolaire, mais peut-être plus largement dans les nouvelles formes d'encadrement de la jeunesse. Donc, je pense à... En vrac, enfin, j'ai noté quelques points qui me viennent, qui font écho à des dimensions que vous avez décrites et analysées. Je pense à ce qui se joue dans les établissements, bon, la cagnotte collective pour lutter contre l'absentéisme, avec cette idée de se fixer un objectif, bon, une certaine définition de la motivation scolaire qui n'est pas sans faire penser à ce que vous évoquez dans l'entreprise, le permis à points dans les établissements, la survalorisation de l'autonomie, c'est-à-dire... Enfin, ce mixte entre à la fois une valorisation de l'autonomie et des pratiques de discipline et de contrôle, avec une actualité encore du Foucault de surveiller et punir, qui est effectivement forte dans le travail et dans le champ scolaire. Voilà donc. Et puis évidemment, et puis bien sûr, l'omniprésence dans le champ scolaire et plus largement maintenant dans le champ de l'éducation, de la recherche des vocables et des termes de compétences et d'évaluation. qui sont aussi des vocables ou des mots-clés ou des mots de passe presque du champ du travail et qui sont aussi omniprésents dans le champ scolaire et plus largement aussi dans les dispositifs d'encadrement de la jeunesse dans les quartiers. Et puis l'importance du corps aussi. Je pensais à ce que tu disais sur l'emploi du temps. Mmh. Enfin, la lecture de Foucault aussi. Bon, j'ai zappé ça tout à l'heure aussi, mais effectivement, toute l'importance de préparer, enfin, de socialiser les corps à une certaine, comment dirais-je, à une certaine posture, selon certaines dispositions qui seront aptes. Alors peut-être, on n'est plus dans le taylorisme. On est peut-être dans quelque chose de plus. On y est encore un peu. On est dans peut-être quelque chose. Enfin, je suis pas du tout spécialiste. Je sais pas exactement dans quoi on est. On est peut-être plus complètement dans le taylorisme, mais il y a quand même encore de ça. Et donc, il y a bien effectivement dans la socialisation scolaire ordinaire une préparation à une certaine posture corporelle, un certain assujettissement, le fait d'être assigné à une place définie, prévisible, etc., qui fait penser à des modes d'organisation du travail que vous avez évoqués. Donc, c'était pour. Effectivement, faire l'analogie entre les deux séances. Et je voulais vous soumettre cette remarque.
Bravo.
On va finir. Alors moi aussi, je voulais faire un parallèle tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Là aussi, à la fois dans les sciences sociales, il faut qu'on soit capable de jouer la transversalité, mais les trois exposés nous ont permis de voir effectivement ce qui se joue dans plein d'autres champs. Je pense particulièrement à la prestation de serment que j'ignorais, que je ne connaissais pas, et qui me rappelle furieusement la nouvelle épreuve dans les nouveaux programmes des concours des enseignants, à savoir agir en fonctionnaire éthique et responsable, hein, où maintenant on va devoir juger de la qualité éthique et responsable des fonctionnaires. Je pense aussi que tout ce qui a été dit sur la résistance cachée est extrêmement importante. Ça m'a rappelé, vous devez plus connaître ça que moi, une étude qui avait été faite, je pense, dans les années 70 chez IBM aux États-Unis. Et là aussi, ils avaient c'était la première fois qu'ils mettaient un système de contrôle sur les ordinateurs des employés d'IBM. Et il a fallu un petit moment avant que les employés s'aperçoivent qu'il suffisait de mettre son coude sur la barre d'espacement. Et donc, ils avaient des pages et des pages et des pages de sauts de ligne, d'espace. Et puis, ils étaient connectés, effectivement. Mais c'est vrai que toutes ces procédures de résistance cachée sont extrêmement intéressantes à étudier maintenant, en particulier face à la... aux problèmes rencontrés par le mouvement syndical cette déqualification des moyens de résistance collective. Alors je ne reviendrai pas sur main droite, main gauche, si quand même un tout petit peu, j'y reviens juste pour dire qu'effectivement la façon dont ça a été abordé me paraît tout à fait intéressante, en particulier quand on regarde les dispositifs langagiers. Parce que ça permet de comprendre que on n'est pas dans une situation où il s'agit de, et ça dans tous les domaines, hein, dans l'organisation du travail, comme dans la gestion médicale ou etc. Qu'il s'agit pas de, enfin si on parle d'idéologie, mais alors au sens vulgaire du terme, au sens journalistique du terme, il s'agit pas du tout pour l'idéologie néolibérale de contourner. Ou de confronter ce qu'on appellerait la main gauche, mais plutôt de la détourner, voire même de la retourner complètement comme un gant. Et ça, d'un point de vue analyse des mécanismes langagiers, ce sont des concepts qui fonctionnent très, très, très bien.
Ouais, je voudrais juste te dire un petit mot sur cette question de résistance, en fait. Ça me fait penser. Et puis, la question, c'est toujours, je pense, où est-ce qu'on met le curseur, c'est-à-dire entre... parce que la résistance passive, certes, c'est de la résistance, mais du coup, où est l'enjeu central ? Est-ce que l'enjeu, c'est dans la domination globale ou dans les formes de résistance à la domination ? C'est-à-dire que la résistance, finalement, est-ce que ça gêne beaucoup qui est-ce que ça gêne qu'il y ait ces formes de résistance ? Je veux dire par là que moi, ça me paraît important parce que, quand on en revient sur Foucault, quand il a cette vision des formes, des différents illégalismes, puisque c'est ça hein, dont tu parles, on peut quand même se demander, ça me semble quand même une manière d'oublier les les formes globales qui sont celles de l'imposition des phénomènes et donc des formes de résistance à la marge qui finalement ne changent pas grand-chose. Enfin voilà. Et je crois que cette question du curseur, c'est aussi une question de... Mais c'est juste une question de sciences sociales, en fait, qui est intéressante. C'est, est-ce qu'on regarde par le bas ou est-ce qu'on regarde un peu par le haut ? Et auquel cas, effectivement, on va plutôt mettre un peu l'accent sur les résistances dans une cadre globale, ou est-ce qu'on fait l'inverse ? Et voilà. Et ça, moi, ça me paraît vraiment important. Et juste un point, je repense, je suis un peu en retard, là, sur les questions de suicide. Effectivement, alors, c'est pas du tout ma spécialité, mais par rapport à ce que je disais tout à l'heure, il me semble que il y a un énorme effort en fait de collectiviser ces suicides. C'est quand même ça, enfin si j'ose dire, c'est quand même ça l'enjeu. C'est quand même l'effort extraordinaire et vraiment très difficile, quasi impossible qu'ils ont réussi à faire. Et du coup, on revient dans une forme de négociation hyper classique entre organisation syndicale et le nouveau patron, qui a l'air d'être un peu plus old school que les autres, ou en tout cas qui a une espèce d'habitude de négociation extrêmement classique. Et donc il a fallu en passer par cette espèce de montée en généralité, c'était Boltanski, cette espèce de montée en généralité de cas de suicide pour rendre possible le retour à la normale de la négociation collective. C'est effectivement, mais je pense que c'est assez rare. Enfin, à mon avis, ça marche pas à tous les coups. C'est, voilà.
Oui, les trois exposés là qu'on a vus me faisaient faire d'ailleurs une même réflexion sur la question des résistances. Et moi, je trouve quand même ce qui est frappant dans vos trois exposés, si on les articule, c'est que on a l'impression, comme ces nouvelles formes de contrôle, elles ont des contradictions. Elles contiennent quand même des contradictions assez fortes. Parce que, bon, oui, on est bien sur un processus, une recherche d'intériorisation des contraintes, mais en même temps, on voit que ce processus d'intériorisation des contraintes, il passe par des dispositifs extrêmement procéduraux, comme on voit pour La Poste, extrêmement bureaucratiques et procéduraux, et que cette contradiction, elle produit elle-même des résistances, quoi, individuelles et collectives. Donc, moi, j'étais plutôt optimiste. Mais ça dépend où on place le curseur. Hein.
Moi, je voulais encore revenir sur cette question des organisations syndicales, parce que c'est vrai que je suis assez d'accord avec ce que vous dites sur la question des résistances, etc. Et plus par rapport au droit du travail et de la prégnance que l'outil juridique a pris dans les luttes, dans les répertoires d'action. Je m'en ai vraiment par rapport, enfin, si on appliquait un peu tout le mode de pensée qu'on a là depuis deux jours à l'institution qui est l'organisation syndicale, justement, donc comment l'idéologie aussi de l'individualisation des travailleurs imprègne cette même organisation et comment ils se réadaptent en fait, parce que du coup ils se sont retrouvés mis en difficulté aussi avec tout le processus de délocalisation, de désindustrialisation qui a complètement mis à mal leur public traditionnel. Enfin là je pense surtout à la CGT qui est le monde ouvrier et finalement tous ces schèmes aussi de représentation par rapport aux patrons et aux travailleurs, au capital, au travail, etc. Et je me demande du coup quelles adaptations dans leur schéma interprétatif et dans leur discours ils peuvent faire et justement les résistances qu'ils peuvent avoir par rapport à ça, parce qu'en même temps c'est leur survie qui est en jeu et donc c'est aussi est-ce qu'ils assument une espèce de transformation de leur action comme un syndicalisme de service du coup qui vient dans un accompagnement un accompagnement des procédures un peu est-ce qu'il y a un peu quelque chose qui est assumé par rapport à ça ou il y a vraiment des discours de résistance, de réaffirmation de la nécessité de la lutte des classes, sans dire des gros mots.
Je me permettrai juste de dire que c'est la troisième partie de mon livre sur le droit du travail en danger. Donc, mais ça, simplement, excusez-moi.
Tu l'as fait la vacance maintenant ?
Ouais, voilà, moi c'est vacances. Et non, mais c'est vrai, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas du tout le temps, mais en fait, tout le monde n'est pas pareil, quoi. C'est-à-dire que tous les syndicats, il y en a qui rentrent. Enfin, déjà, ils n'ont pas trop le choix, hein, puisque effectivement, on voit sur les suicides, par exemple, c'est la seule solution pour y arriver, des fois, c'est de passer par le droit, par le registre thérapeutique ou des choses comme ça. Après, il y a eu des formes de résistance d'un certain nombre d'organisations, mais on voit que même dans des organisations comme, par exemple, en tout cas à Poitiers, la CNT, qui est celle peut-être la moins institutionnelle, enfin celle qui a le plus de distance à l'institution, il y a tout le registre juridique, il est extrêmement fort. Donc là, on voit bien que ces formes de résistance, finalement, à l'ordre judiciaire, enfin juridique, elles sont un peu passées de mode. Sauf qu'il y a toujours cette tentative de recollectivisation du droit à travers la jurisprudence, etc. etc. Bon, enfin, là, on n'a pas le temps du tout de parler de ça.
Et on en reparlera. Moi, peut-être juste pour ajouter par rapport à ça, puis ça me permettra peut-être de revenir aussi sur un certain nombre de choses. Pour la petite histoire, enfin, qu'il faudrait développer, mais entreprise de soi, ça a été conçu par donc deux responsables en formation interne à l'entreprise et sur la commande d'un DRH. Et je vais introduire une autre dimension que j'ai pas abordée ici, c'est la dimension directement politique, c'est-à-dire que ça qui vire parfois à la caricature. Le DRH du groupe s'était présenté sur une liste du Front National quelques années auparavant. Là, et parmi les deux responsables de la formation, les deux consultants en formation interne, l'un était CGT et l'autre CFDT. Et donc la demande émane du DRH et la mise en œuvre du dispositif avec cette forme-là de développement personnel et donc avec cette forme aussi de soutien face à des souffrances, avec l'idée d'une réalisation de soi, vient de ces deux anciens syndicalistes, enfin qui avaient dû arrêter leur activité syndicale quand ils avaient intégré le service des ressources humaines, mais qui restaient fidèles et qui ne voyaient aucune contradiction entre ce qu'ils proposaient, mais qui le voyaient au contraire comme une continuité, comme une forme aussi d'engagement vis-à-vis des salariés de l'entreprise. Voilà, enfin, je pourrais développer sur ces espèces de... Voilà, mais voilà, il n'y a pas le temps, mais ce que je veux dire, voilà, il y a des relectures aussi de ses propres engagements selon les contextes qui donnent des figures politiques et syndicales assez étranges.
Voilà, il faut aller vite parce qu'on a parlé de droit du travail jusqu'ici. Il y a des gens qui ont le droit du travail de ne pas dépasser l'horaire. Donc ce serait bien.
Vas-y, Nadège, finis.
Ah ouais. Bon, pour finir, je vais faire quelques petites remarques pour répondre à chacune des questions. Sur la remarque d'Étienne sur le corps, ce qui est très intéressant, je vais revenir sur l'idée du vêtement, c'est qu'il y a vraiment une transition quand il y a pas mal de promus internes chez les conseillers financiers. Les guichetiers, quand vous êtes guichetier, vous êtes en jean, jogging, basket. Et le même guichetier qui va devenir conseiller financier va vivre une transformation vestimentaire énorme. Et il y a un dress code, certes, mais en plus, il est heureux de le faire. C'est-à-dire que passer au tailleur pour les femmes, au costume-cravate pour les hommes, ça donne de l'importance. Il y a quand même... on pourrait aller dans la logique extrême où, je crois qu'Hélène en parle dans son texte, la Poste a essayé de mettre en place des séances de relooking en province, perdu. Ça s'est très mal passé. Les syndicats ont porté plainte aussitôt, puisque une dame disait, venez voir les conseillers financiers et les guichetiers en disant, madame, il faudrait vous maquiller, ah, votre jupe est trop longue. Donc ça, c'est pas passé, les syndicats sont montés au créneau. Pour l'instant, ils ont laissé tomber les séances de relooking, je pense que ça reviendra. Voici sur la question du corps. Pour répondre sur la prestation du serment, enfin, je vais aller sur autre chose. Parce que à l'issue de ma communication, le problème, c'est qu'on se demande pourquoi ils font ça tellement ça a l'air horrible, ce métier. Mais en fait, il y a quand même des motivations, des sources intéressantes à être là. Je vous ai parlé du statut, du fait qu'il soit en CDI, soit fonctionnaire. C'est quand même intéressant par rapport à d'autres emplois précaires. Il ne faut pas oublier le salaire qui, par rapport aux autres banques, mine de rien, le salaire fixe sans les commissionnements est plus élevé que dans les autres banques. Donc, c'est pas négligeable. La reconnaissance, il existe quand même des médailles, des challenges. Bon, vous gagnez des bons d'achat si vous êtes première. Alors, ça existe ailleurs. Mais c'est une reconnaissance quand vous faites des grands messes, on vous applaudit. J'ai assisté pour un malgache qui est arrivé. Et il avait gagné, il était le meilleur dans un département de province où c'était le seul de couleur. C'était fabuleux, il était très content, on reconnaissait sa compétence, c'était formidable. Et puis il y a quand même le côté plaisir de voir des clients et autonomie, même si je viens de dire l'inverse. Mais c'est pour ça, c'est contradictoire. Mais il y a l'autonomie, il ne faut pas oublier par rapport au bureau de poste, les guichetiers qui fonctionnent en brigade. Eux, s'ils ont besoin de prendre un après-midi, selon leur rapport avec leur hiérarchique toujours, mais ils peuvent le faire éventuellement, c'est jouable. Bah, je voulais répondre au monsieur, mais éventuellement on répondra après alors. Non, mais parce que... Merci. Merci.